Les podcasts de Radio Vatican.
En Roumanie, les images de milliers d'orphelins dans des institutions délabrées avaient ému l'opinion publique mondiale fin décembre 1989 à la chute du dictateur communiste Nicolae Ceaușescu. Le régime avait imposé une politique familiale qui obligeait chaque famille à avoir 5 enfants au moins. Mais dans un pays à l'économie exsangue, cette politique a abouti à l'abandon de dizaines de milliers d'enfants que des familles modestes n'avaient pas les moyens de nourrir. Nicolae Ceaușescu a fait construire 600 orphelinats dans le pays qui, en 1989, ont révélé toute leur horreur. Conditions d'hygiène déplorables, insalubrité, malnutrition et mauvais traitements. 28 ans après, une plainte a été déposée par l'Institut roumain de recherche sur les crimes du communisme. Institut qui souhaite faire ainsi la lumière sur ce sombre chapitre de l'histoire du pays. Pour comprendre ce qu'ont représenté ces orphelinats, notre invitée est Alina Marine. Abandonnée par sa famille à l'âge de 6 ans, elle a grandi dans ces institutions jusqu'à l'âge de 21 ans. Auteure de « Mémoires d'orphelins » aux éditions du Faucon d'Or, Alina Marine témoigne.
On va retourner en 1966, où l'un des principaux objectifs politiques de Ceaușescu était d'augmenter la démographie dans le but d'industrialiser massivement le pays. Eh bien, dans ce sens, le régime avait pris un certain nombre de mesures qu'il a réunies dans la loi de 1970, votée par le Parlement. Et c'est une loi qui instaurait la primauté de l'État sur la famille. Les femmes étaient tenues de procréer 5 enfants, au moins. Et l'idéal de la femme, dans ces années-là, était d'être une femme modeste, simple, déféminisée, heureuse de cet état et en bonne santé. Alors, évidemment, comme le régime s'y attendait, cette loi a causé la multiplication des naissances d'enfants non désirés. Et la conséquence a été la création programmée d'environ 600 orphelinats. Dans ce contexte, on peut donc parler d'institutionnalisation de l'abandon. Entre 1970 et 1980, il y a eu 2 millions d'enfants non désirés qui sont nés.
Quelle description feriez-vous de ces orphelinats ?
Ces orphelinats étaient situés à la campagne, pour la plupart. Et le personnel recruté était composé essentiellement de femmes non qualifiées des villages des alentours. Alors, les enfants qui étaient abandonnés souffraient de multiples maux, dont l'hospitalisme, qui est une carence affective, la malnutrition, l'autisme, le balancement et la psychose. Après l'âge de 3 ans, les enfants étaient classifiés par les commissions administratives de Provence qui leur faisaient passer des examens afin de trier les bons des mauvais. J'ai subi des examens. Quand je suis partie du premier orphelinat pour préscolaire, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, il fallait que j'intègre donc une école et la commission administrative de l'orphelinat qui était formée d'instituteurs m'avait trouvé mauvaise. Donc j'avais intégré moi une école spéciale afin de savoir quelle serait mon évolution par la suite pour peut-être intégrer une école normale. Alors les bons, donc, comme je disais, étaient amenés dans les casas de copie des casas de copie où on mettait les enfants de 3 à 6 ou de 6 à 18, et les mauvais, qui étaient handicapés mentaux ou moteurs, intégrés des communes hôpitaux ou des centres de neuropsychiatrie. Alors évidemment, des entorses à la règle existaient. Le Caillonnout, c'est un ancien camarade de classe qui, lui, était un handicapé moteur. Et puisqu'il était gentil, puisqu'il était blond et qu'il avait des yeux bleus, il a pu intégrer notre classe, qui était une classe d'enfants normaux. Alors, en 1980, le régime a créé 2 autres sortes d'orphelinats qui étaient adaptés aux nouveaux problèmes sociaux. Donc, il y avait des orphelinats pour des séropositifs et des écoles spéciales. Alors, dans ces écoles spéciales, que se passait-il ? Eh bien, tous les enfants qui n'étaient pas abandonnés à la naissance, mais qui étaient en retard scolaire, pouvaient intégrer ces écoles spéciales. Alors, c'était en quelque sorte aussi mon cas et celui de mes sœurs. Ces enfants-là étaient enlevés à leur famille, C'était donc mon cas. Et nous étions cachés, car nous étions considérés comme des indignes, des enfants en retard scolaire, et nous nous rendions d'office coupables de l'absence de volonté à apprendre. Donc naturellement, pour ces éducateurs, il s'agissait de nous dresser afin de nous remettre sur le bon chemin.
Qu'avez-vous vécu dans ces institutions? Est-ce que, par exemple, vous avez subi des violences psychologiques ou physiques?
Oui. J'ai vécu dans deux orphelinats, alors de 4 à 6 ans dans un orphelinat pour préscolaire, donc je viens de vous le dire, et de 6 à 21 ans dans une casa de copies. Alors je m'attarderai sur cette casa de copies, parce que j'y ai vécu une partie de mon enfance et toute mon adolescence. Cette casa de copies était une institution qui accueillait deux écoles. Je vous parlais déjà de la classe spéciale que j'ai quittée aux insistances d'une de mes futures camarades de classe qui s'appelait Béatrice et que la directrice de l'orphelinat aimait énormément. Alors cette petite fille, elle a insisté pour me faire sortir de cette classe sociale parce qu'elle ne me considérait pas handicapée. Hein, psychique. Donc, elle allait se poser sur les marches de l'école des grands, hein, puisqu'il y avait l'école des petits et l'école des grands, et à chaque fois que la directrice sortait de son bureau, elle l'interpellait pour lui parler de mon cas. c'est comme ça, eh bien, que j'ai échappé à cette classe spéciale qui était une expérience épouvantable pour les enfants qui l'intégraient. Et alors, il y avait aussi donc l'école normale pour les enfants dits bons ou normaux. Dans cette orphelinat, le personnel éducatif était composé, comme dans tous les orphelinats, essentiellement de femmes non qualifiées, je disais des villages alentours. Hein. Dans cet orphelinat, il y avait des mauvais traitements. Je subissais et nous subissions des mauvais traitements et ces mauvais traitements faisaient partie de l'éducation. Alors, mon maître d'école et mon éducatrice, ainsi que les autres éducateurs de l'orphelinat, étaient des bourreaux d'enfants. Et pour l'exemple, le matin, quand nous rentrions dans la classe, nous avions peur. Nous tremblions à chacun des pas de ce maître d'école qui se promenait entre les bancs. Nous craignions le moment où son coup de poing va tomber avec force entre nos omoplates. Et aussi ce moment où le sang couvrira les bancs à cause d'une claque derrière la tête administrée avec rage. Parce que cet homme... Il n'aimait pas les enfants, il n'aimait pas son métier. Il y avait aussi, nous craignions aussi ces moments où nous sentions la douleur nous faire arracher les cheveux à cause d'une mauvaise réponse. Et l'après-midi, ce n'était pas terminé. Nous devions subir aussi l'éducation au bâton de cette éducatrice principale, les humiliations en particulier, celles qui nous obligeaient à fabriquer nous-mêmes nos bâtons. Et puis, il y avait aussi ce moment pénible au réveil, quand nous vivions dans la peur et le stress que la surveillante nous découvre les draps mouillés, parce que nous étions nombreux à faire pipi au lit. Nous subissions cette humiliation qui faisait que cette femme nous enfonçait la tête dans les draps et elle nous emmenait par les cheveux dans la salle de bain pour laver, l'objet de notre honte.
En matière d'hygiène, de soins et d'alimentation, comment était la situation?
Ah oui. Les conditions de vie étaient en effet déplorables. Nous étions une centaine de filles, autant de garçons. Il y avait deux dortoirs. Et dans ces dortoirs, nous dormions deux par lit. Alors les lits, c'était des anciens lits d'hôpitaux. Hein. Les lattes des lits étaient cassées et les matelas manquaient de laine à l'intérieur. Donc, ce qui fait que quand vous dormiez, eh bien, le corps était recourbé et les pieds dépassaient en fonction de l'âge de l'enfant. Les pieds dépassaient du lit parce que les lits faisaient 1m40. Au plus, pour les petites et pour les plus grandes, eh bien, là, c'était des lits de camp. Hein. Elles dormaient dans des lits de camp. Dans ces chambres, les murs étaient gonflés par l'humidité et la moisissure. Et je vous dis, une chose, c'était terrible en hiver. Les fenêtres n'avaient pas toutes des carreaux. Et l'hiver, nous remplions ces espaces vides avec des couvertures ou des oreillers. Alors, les dortoirs étaient équipés de 4 toilettes et 4 douches, dont seulement 2 fonctionnaient. Les salles d'eau étaient si usées qu'elles ne fonctionnaient plus et les salles de bain étaient régulièrement le théâtre d'un spectacle horrible où les excréments, eh bien, jonchaient le sol et les murs. Et quant à l'alimentation pauvre, il faut noter qu'à cette époque, la malnutrition était l'une des conséquences les plus terribles du régime. Et la malnutrition atteignait non seulement les orphelins, mais toutes les classes défavorisées.
À la chute de Nicolae Ceaușescu, où étiez-vous et comment avez-vous vécu ce moment?
J'étais à l'orphelinat. Et je l'ai vécu comme tous les autres enfants de mon âge et les plus grands. Nous avons eu pour consigne d'arracher la première page à tous les manuels scolaires, cette page-là qui portait le portrait de Ceaușescu. Nous avons tagué les portraits du dictateur avec des joyeux messages de sympathie et ainsi nous les avons brûlés. La chute de Ceaușescu a également marqué mes premiers moments, je dirais, de respiro.
Une plainte a été déposée, la première, pour dénoncer et faire la lumière sur ces orphelinats. En quoi, selon vous, la réouverture de ce chapitre douloureux de votre vie, d'une part, mais aussi de l'histoire de la Roumanie, peut être utile pour vous et pour le pays?
À bien réfléchir, cette dénonciation est nécessaire dans le processus de résilience de chaque orphelin qui a vécu dans les orphelinats du régime. Je dirais qu'il faut que leur soit accordé le statut de victime, essentiel à leur reconstruction. J'aimerais que la Roumanie reconnaisse ses erreurs dans son passé. J'aimerais que leur mémoire soit honorée. Et que toutes les personnes qui ont œuvré au sauvetage des orphelins en soient remerciées. J'aimerais que la Roumanie commence une vraie réflexion sur l'avenir des orphelins et des orphelinats, sur le devoir de l'État roumain à prévenir les abandons, surtout dans les campagnes. Il faut également que l'État forme le personnel des orphelinats, les femmes de ménage, les cuisinières, les surveillantes, etc., à la prise en charge correcte de l'enfant institutionnalisé en mettant l'accent sur la communication non violente.
Tous les orphelins n'ont pas eu votre parcours. Quelles étaient les issues possibles pour les enfants?
Alors, l'éducation que nous recevions à l'orphelinat n'envisageait pas de faire de nous des scientifiques. Donc, par conséquent, on nous poussait dans la direction choisie par l'État, c'est-à-dire des écoles professionnelles et des lycées techniques. Certains d'entre nous ont réussi, avec parfois l'aide de la famille, et d'autres ont eu des parcours, alors là, extrêmement chaotiques, comme par exemple le passage par la case prison pour prostitution ou vol. Et j'en connais au moins deux de mes camarades, de mes anciens camarades de classe, qui sont passés par la case prison. D'autres ont tenté leur chance à l'étranger parce que après la révolution, il y a la Croix-Rouge de Genève qui est venue à l'orphelinat avec un programme qui s'appelait le fil rouge et dont le but était de faire connaître à 30 enfants une famille en Suisse. Donc j'ai fait partie de ce programme et ceux qui faisaient également partie de ce programme, certains d'entre eux, ils ont tenté après leur chance à l'étranger une fois devenus adultes et aujourd'hui ils ont des métiers honorables et une famille dont ils s'occupent s'ils n'avaient jamais connu l'abandon. Alors aujourd'hui certaines choses ont changé comme l'accès aux études universitaires et d'autres pas. Et ça, c'est gravissime. La violence est toujours d'actualité dans les orphelinats. Donc vous voyez, hein, on n'est pas au bout de nos peines.
Un entretien réalisé par Jean-Charles Puzelu.